Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous écoutez Opsit, le podcast de l'IHMC. Aujourd'hui, consacré aux lieux abandonnés. Nous avons le plaisir d'accueillir non pas un, mais deux intervenants pour évoquer ces lieux abandonnés, qui sont le thème du séminaire de notre institut pour l'année 2023-2024. À la suite de cette conversation, nous aurons bien entendu la chance d'écouter notre carte blanche, aujourd'hui menée par Costanza Lugnani sur le documentaire consacré à Emanuela Orlandi, la disparue du Vatican, publié, édité en 2022. Nous avons donc aujourd'hui le plaisir d'accueillir Nicolas Offenstadt, maître de conférence à l'Université Panthéon-Sorbonne et membre de l'IHMC, qui est spécialiste d'exploration urbaine, qui travaille énormément sur la mémoire, les enjeux de la mémoire, ses traces, notamment en RDA, l'histoire de la Grande Guerre, bien entendu, et qui est une mine puisqu'il s'intéresse à l'historiographie. Nous écouterons et nous dialoguerons également avec le professeur Christophe Charles, que l'on ne présente plus, émérite à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ancien directeur de notre institut, qui a pour thème de recherche l'histoire sociale et culturelle comparée de l'Europe au 19e-20e siècle, l'histoire des intellectuels, des élites, des capitales culturelles, de l'enseignement supérieur, etc. etc. Donc aujourd'hui, Christophe, Nicolas, vous avez accepté de nous présenter, d'évoquer pour les auditeurs d'Obsite ce que l'on appelle les lieux abandonnés. De prime abord, si vous êtes d'accord, un lieu abandonné renvoie, pour nous qui sommes historiens, au passé. Il est donc normal qu'il entre dans l'atelier de l'historien, puisque d'une certaine façon, ces lieux abandonnés sont des sources au même titre que nos archives. Mais contrairement aux archives, qui même si elles peuvent être abandonnées en déshérence, ces lieux, par leur abandon, renvoient à un certain nombre de choses sur lesquelles j'aimerais que vous reveniez. Donc, à une époque plus ou moins éloignée, ils étaient occupés. Ils abritaient, quand il s'agit de logements, des familles, des administrations, des entreprises. Un lieu abandonné est visible dans le paysage. Il a dévié dans son occupation de sa destination initiale, il se dégrade, il peut même être dangereux. Il n'aurait pas ou plus de propriétaire. Il serait en dehors de la gestion de la chose publique, car ces espaces se trouvent souvent en dehors de la fiscalité foncière. Et ils peuvent aussi être utilisés légalement, illégalement. Ils deviennent squats, lieux de performance artistique, et sont dans certains cas réhabilités. Donc, après avoir écouté et lu vos travaux, voilà ce qu'on peut dire succinctement de ce qu'est, a priori, un lieu abandonné. Mais j'aimerais que vous soyez un peu plus précis que je ne le suis et que vous nous expliquiez la différence entre un lieu abandonné, une friche et une ruine, par exemple. Christophe, si vous voulez commencer.
Dans le cas que j'ai étudié, donc, qui est un ancien... une ancienne institution publique, puisque c'était le palais d'Orsay, donc, qui était occupé par des administrations, la Cour des comptes et le Conseil d'État. C'est lié à un épisode historique évidemment majeur de l'histoire française, c'est-à-dire le siège de Paris puis la Commune et les destructions qui ont suivi la Commune. Donc là, on a un événement historique majeur qui a causé cette ruine et ensuite une absence de décision quant à l'avenir de cette ruine. Mais on retrouve ce problème dans beaucoup d'autres endroits, pas seulement dans le cas que j'ai étudié. Je crois que c'est souvent lié à une sorte de paralysie de la décision publique, une hésitation. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on le détruit? Donc c'est toujours ça l'alternative. Est-ce qu'on fait table rase du passé ou est-ce qu'on réhabilite? Et souvent, il y a des enjeux contradictoires dans ce type de choix. Et c'est évident aussi pour des grandes usines. On sait bien que ces grandes usines sont condamnées par des raisons économiques, mais en même temps, ce sont des espaces où il y a des installations, où il y a des machines, où il y a du terrain qui pourrait être réutilisé. Donc ça pose des problèmes de réemploi. Et donc c'est un moment où les hommes hésitent, sont partagés entre plusieurs options. Et c'est intéressant de voir ce qui travaille une société à travers ces choix qu'on n'arrive pas à faire.
Et vous, Nicolas, votre point de vue ?
Alors, la ruine et la friche sont deux thèmes que les historiens ont déjà bien discutés. En général, on distingue la ruine de la friche, parce que la ruine, c'est plutôt l'abandon formel. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à l'extérieur, au bâti, à l'architecture qui est dégradée. Tandis que la friche, c'est plutôt l'idée d'un lieu qui a perdu sa fonction. Donc, il y a quand même une différence de définition entre les deux, qui, évidemment, avec des nuances. Parce que, par exemple, une ruine n'est pas forcément abandonnée. Il y a des ruines qui sont muséographiées, qu'on peut visiter. Et il y a des friches. Il y a des lieux en friche qui ne sont pas du tout dégradés, qui restent en bon état, même si on n'y fait plus rien. Donc, c'est deux notions assez différentes, malgré tout. Quant à celle de lieu abandonné, évidemment, elle est assez riche et assez compliquée. Il n'y a pas de définition unique, il y a des débats, il y a des discussions. L'abandon, disons qu'on peut avoir trois orientations si on veut discuter de cette notion. Le premier, c'est un lieu qui est délaissé où il n'y a plus d'activité. Ça, c'est une notion dynamique, hein, où on voit un lieu qui perd sa fonction, ce rapproche de l'Afrique. Donc, on se centre sur le délaissement. On peut se centrer aussi sur une notion, évidemment, qui intéresse aussi les historiens, sur la notion de propriété. Un lieu est abandonné, soit quand son propriétaire a disparu, ce qui arrive, qu'on ne peut plus l'identifier, voire qu'il n'accomplit pas ses obligations légales. Donc, on se centrera plus sur le propriétaire que sur le lieu. Et puis, aujourd'hui, avec les réflexions écologiques, il y a aussi des déplacements, hein, dans la définition. Et certains mettent en avant l'idée, dans le fond, on peut aussi regarder un lieu lorsque la nature reprend ses droits, comme certains disent, ou en tous les cas, quand la nature devient prééminente dans son action sur celle de l'homme. Donc, en fait, la définition du lieu abandonné va changer selon le point de vue qu'on va, disons, adopter comme historien. Et juste un tout petit point, ce qui peut-être fait l'intérêt de notre discussion, on le voit bien, il y a des enjeux, il y a des tensions. Christophe en donnait une qui est importante, la paralysie de la décision publique. Mais ce qui me frappe et ce qui, à mon avis, justifie notre discussion pour les historiens d'aujourd'hui, c'est que le lieu abandonné, il est encore peu défriché, si on peut dire, historiographiquement. C'est-à-dire que les historiens ont beaucoup travaillé sur le processus d'abandon, c'est-à-dire sur la fermeture des institutions, sur la désindustrialisation, sur la fermeture des usines, sur la liquidation des régimes. Donc la période de fermeture, la fin, est généralement bien connue, bien travaillée dans l'historiographie. Aujourd'hui, les sociologues, les anthropologues, mais aussi les historiens, travaillent beaucoup sur la réhabilitation, c'est-à-dire le moment où le lieu abandonné connaît une nouvelle vie. Et par exemple, on sait qu'une de ces nouvelles vies les plus fréquentes, c'est celle du tiers-lieu, hein, du lieu qui a un statut un peu particulier, où on y fait différentes activités artistiques, culturelles, généralement sans payer les coûts habituels. Donc il y a le processus d'abandon, on a travaillé dessus, on a beaucoup de bibliographies. La récupération, la réhabilitation, il y a beaucoup de travaux aussi. Mais il y a ce moment qui est assez fascinant, sur lequel on va revenir, c'est le moment de l'abandon. C'est-à-dire entre les deux, entre la fin et le renouveau. Et là, je crois que c'est un chantier historiographique tout à fait neuf qui justifie notre discussion. Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut aborder en historien ce temps qui n'a pas beaucoup intéressé jusqu'ici?
Donc, à vous écouter tous les deux, nous sommes d'accord. Un lieu abandonné est bien une source pour l'histoire et une source à prendre tout à fait au sérieux, au même titre que celle que nous sommes habitués à utiliser. Il me semble d'ailleurs, notamment lorsqu'on s'intéresse à l'histoire du XXe siècle, que dès qu'on pénètre un lieu abandonné, ce lieu peut générer d'autres sources. C'est-à-dire que le lieu est une source, mais ce qu'il contient, ce qu'il abrite, peut l'être aussi. Il me semble que l'un comme l'autre, vous avez déjà évoqué le cas des objets qu'on y trouve, des archives. Ce que génère aussi le fait que les historiens pénètrent dans ces lieux de rencontre avec les voisins, les anciens acteurs. Donc, ces lieux abandonnés qui sont source d'histoire, comment peut-on, à l'instar un peu d'autres travaux que Nicolas vous avez évoqués ou auxquels vous faites référence, nous, aujourd'hui, les étudier? Comment ce lieu qui a été peu historiographié doit-il être traité comme source? Nicolas, Christophe, vous voulez commencer? Christophe?
Ah, il y a autant de cas que d'exemples, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de méthodologie uniforme. Dans les travaux de Nicolas Offenstadt, c'est lui qui finalement extrait les sources du lieu où il va faire ses expéditions, puisqu'il retrouve des archives dans les lieux eux-mêmes. Dans d'autres cas, c'est justement l'absence de décision, l'incertitude du statut de ce lieu qui fait qu'il y a des commentaires, que ça suppose des débats, puisqu'on n'arrive pas à se décider de ce qu'on va en faire, avec des gens qui défendent des positions opposées et qui évidemment évoquent le lieu soit en voulant le réhabiliter, le remettre dans sa fonction initiale. Donc il convoque un imaginaire positif, hein, c'est ce qu'on appelle la patrimonialisation, hein. On a eu récemment un exemple avec le pavillon de Marie Curie dans le 5e arrondissement, où on voulait absolument préserver ce lieu parce qu'il y avait une mémoire spécifique liée à une histoire glorieuse. Et tout le monde a rappelé cette histoire glorieuse que la plupart des gens avaient totalement oubliée, bien entendu, dans le grand public. Donc c'est l'occasion aussi de faire ressurgir des histoires oubliées par les gens qui militent pour la patrimonialisation. Inversement, il y a ceux qui veulent faire table rase et qui veulent au contraire chasser des mauvais souvenirs. Et dans l'exemple que moi j'ai étudié, évidemment, le mauvais souvenir, c'est la guerre civile qui a été la cause de l'incendie et de la ruine du palais dont je parle. Donc là, il s'agit d'effacer un moment d'histoire. Mais évidemment, ça mobilise là aussi des arguments, des débats, des discussions et des positions antagoniques qui révèlent aussi la société.
Et vous, Nicolas ?
Oui, alors la question des sources que vous posez, elle est très importante pour compléter la réponse de Christophe Charles. D'abord, effectivement, il y a deux choses qui sont amenées par ces... La première, c'est, comme le disait Christophe et comme le montrent ses travaux sur le Palais d'Orsay, c'est aussi d'aller interroger des sources classiques, qui peuvent être la littérature, qui peuvent être les journaux, pour aller chercher l'abandon et pour aller chercher cette spécificité. Donc il y a déjà, dans le travail de l'historien, il faut, en quelque sorte, changer un peu la focale et souvent aller sur des passages de texte ou des sources qui n'étaient pas les plus interrogées parce que l'abandon lui-même n'était pas central. Ensuite, effectivement, les lieux eux-mêmes sont très parlants. Alors, pour vous donner quand même, puisqu'on parle de sources, pour vous donner une idée, moi, j'en ai visité à peu près dans différents continents environ 600, de manière approfondie, pour beaucoup d'entre eux. Donc, voilà mon expérience. Hein. J'en ai fait l'essentiel en Allemagne et en France. J'en ai vu quelques-uns à l'étranger. Donc, j'ai, disons, une petite idée de ce qu'on peut y trouver et comment les aborder. D'abord, il y a ce qui est assez classique, mais dans un lieu abandonné, c'est particulièrement pertinent. Il y a toutes les formes architecturales, toutes les sources, on pourrait dire, du bâti qui soit, et de décoration qui sont parfois très préservées. Pour vous donner un exemple concret, moi qui ai travaillé sur la guerre de 14-18, j'ai trouvé... En faisant mes expéditions sur les lieux abandonnés, j'ai trouvé beaucoup de sources pour la guerre de 14-18. Il y a des inscriptions, parfois des inscriptions dans des caves qui sont celles d'anciens soldats qui ont été là pour des raisons qui m'échappent. On trouve des inscriptions patriotiques dans d'autres. Donc, à la limite, on continue une classique, en quelque sorte, pratiquement recensement épigraphique. Hein, il y a des inscriptions, il y a des éléments. Donc, c'est une source par son bâti et par ses décorations. Il y a parfois des peintures abandonnées, des sculptures, des graffitis. Et pour l'historien du politique, on trouve dans les lieux, notamment lorsqu'il y a eu des conflits, qui peuvent être généralement des conflits du travail, des conflits sociaux, on va trouver des inscriptions qui rappellent ces conflits, qui rappellent les luttes. Donc, je dirais que quasiment depuis l'épigraphie médiévale, ça m'est arrivé aussi de trouver des inscriptions médiévales très intéressantes, jusqu'aux luttes contemporaines, le bâti, le lieu... est une source. Ensuite, quand on travaille sur l'abandon, évidemment, les choses deviennent un peu plus subtiles. Qu'est-ce qui va nous aider ? Effectivement, comme le rappelait tout à l'heure Christophe, on trouve beaucoup de choses dans ces lieux, beaucoup d'objets et de matériaux abandonnés. Et ça, c'est ce qui m'a frappé. Ça a été sans doute un des éléments qui m'a poussé à continuer ces travaux. C'est qu'ils sont d'une richesse en termes d'objets et de matériaux abandonnés considérables. Par exemple, les archives. Évidemment, l'historien sacralise un peu les archives, c'est notre matériau premier. On a l'habitude de les voir d'une manière très ordonnée. Et ce qui est frappant, c'est que dans tous ces lieux, c'est très variable. On trouve ça partout dans le monde. On a des paquets entiers d'archives. Parfois, c'est même l'entièreté de l'institution qui a laissé ces archives. Ça m'est arrivé dans une immense fonderie. On avait toutes les archives depuis le 19e siècle en Saxe, y compris celles de l'époque nazie. Donc, c'est évidemment... Donc là, on a une source. Et alors, je dirais que la question, elle est doublement intéressante. C'est-à-dire... les sources elles-mêmes, qu'est-ce qu'elles vont nous apprendre sur le lieu et son abandon, mais aussi pourquoi elles ont été abandonnées. Hein, quelle conception du patrimoine on a, quelle conception de l'histoire on a quand on laisse autant d'archives. On trouve aussi des objets de la production, que ce soit les machines ou le produit fini. Alors vous allez me dire, c'est pas forcément très intéressant parce qu'on peut trouver ça ailleurs, dans un catalogue, dans une source écrite, voire dans un musée. Ce qui n'est pas vrai parce qu'en réalité, toutes les entreprises n'ont pas archivé leur production. Et j'ai un exemple que je ne développerai pas, mais d'une petite usine du produit laitier dans le Maine, dont en fait on a pu reconstituer l'histoire que parce qu'un historien,
à une époque où l'urbex n'existait pas, mais il allait en exploration et il a ramassé dans l'usine abandonnée les archives et les productions, c'est-à-dire toutes les emballages, les produits finis, et il a fait un petit article dans une revue locale. Donc les sources sont infinies, et surtout ce qui est incroyable, c'est qu'elles sont abandonnées sans autre perspective que d'être détruites par le temps ou par une évolution du lieu. Donc la question des sources, elle est centrale pour notre sujet, à la fois la manière d'aborder l'abandon, on l'a évoqué avec le cas du Palais d'Orsay, mais aussi que faire une fois qu'on a tant de matériaux dans ces lieux-là.
Alors, je voudrais évoquer avec vous, puisque le temps file, la façon dont ces lieux frappent les esprits. D'ailleurs, à ce propos, Christophe nous a apporté une source. Il s'agit d'un article de Camille Flammarion, publié dans le journal littéraire Gil Blas en 1881.
Il y a là toute une forêt renaissante qui, déjà en certaines régions touffues, devient inextricable et qui se compose en réalité d'une multitude d'arbres et d'arbustes et de plantes herbacées singulièrement variées. On y trouve des platanes, des érables, des saules, des bouleaux, des sureaux, des figuiers, des pêchers, des framboisiers, de la vigne vierge, de la clématite, des fougères. Le lierre s'enlace à la cheminée sculpturale du salon du Conseil d'État. La ciguë meuble les corridors. Les padanes, ironie du sort, tapissent la salle des fêtes. Le trèfle des prés couvre la cour d'honneur. La renoncule des prairies s'est installée au boudoir. Les orties jonchent les dalles de la façade de l'est. Les coquelicots fleurissent à l'ouest. Le plantain, le mouron, la douce amère, les fraisiers, les asperges, les marguerites, les violettes, les pissenlits, la ronce et le chardon se sont substitués aux tapis d'Orient et aux parquets disparus. Tout ce monde végétal s'est réinstallé comme si ce vaste terrain occupé par des bâtiments du Conseil d'État et de la Cour des comptes n'avait pas cessé de faire partie du pré-au-clair et sans souci de l'histoire des humains qui, depuis Louis XIV jusqu'à Napoléon III, l'avaient considéré comme leur propriété définitive. Quelques-uns de ces arbres atteignent des dimensions respectables. À l'ouest, un érable mesure 8,50 m de hauteur et 33 cm de circonférence. Au nord, un platane mesure 5 mètres de hauteur et 27 cm de circonférence. À l'est, un érable offre à peu près les mêmes proportions. Certaines clématites mesurent plusieurs mètres de longueur. Je le répète, c'est une véritable forêt naissante. Comment tout ce monde végétal est-il arrivé là ? Certaines graines, telles que celles du platane, n'ont eu que la largeur du quai à traverser. Car en cet endroit, les platanes bordent la Seine sur une vaste étendue. Ces graines sont légères et le vent les emporte comme du duvet. Les érables sont venus d'un peu plus loin. Le sureau, le bouleau, le saule d'un peu plus loin encore. Quant aux fougères, aux asperges, aux framboisiers et à leurs congénères, c'est de la campagne qu'ils ont été apportés. Par qui ?
Donc Christophe, cette source que vous nous avez proposée aujourd'hui évoque la perception de la nature en ville par les romantiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ?
Oui, enfin, je ne sais pas si c'est romantique, puisque l'auteur est un savant, hein, c'est un astronome et qui fait de la vulgarisation, mais je crois que c'est plutôt le sentiment que la ville, finalement, est extrêmement fragile. Or, nous sommes juste dans les années 1880, on a connu la grande transformation haussmannienne où justement on a voulu organiser la ville de façon extrêmement rationnelle, où on a cantonné la nature dans des parcs très bien dessinés, que ce soit les buts de Chaumont, que ce soit le bois de Boulogne, le bois de Vincennes, etc. Et là, on a l'impression que suite à cet événement là, qui est la commune et cet incendie qui laisse ce lieu à l'abandon, la nature revient comme si l'homme était incapable finalement de contrôler la ville quand il la laisse un petit peu vivre toute seule. Donc je pense qu'il y a ce sentiment-là que finalement la vie en ville est fragile et qu'un événement brusque peut tout remettre en question. Et ce lieu abandonné le montre. Je pense que c'est un peu ça que l'auteur veut démontrer.
On ferait une lecture tout à fait différente de cette source si elle était publiée aujourd'hui, n'est-ce pas, Nicolas ?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que beaucoup de nos contemporains, depuis l'accélération de la crise écologique, prêtent une attention grandissante, évidemment, au rapport entre nature et culture. Et notamment, la friche, c'est intéressant. fait l'objet de spéculations philosophiques. C'est-à-dire que c'est le lieu où on voit déjà, en quelque sorte, hein, dans une vision qui peut être apocalyptique, dans une version qui peut être téléologique, il y a différentes lectures. C'est l'endroit où, en le fond, les misères de l'homme commencent déjà à donner leur effet, puisqu'on voit progressivement que les lieux se dégradent, que la nature reprend ses droits. C'est une expression qu'on emploie parfois, qui est parfois critiquée, parce que la nature n'a évidemment pas de droit ainsi formulé. Mais en tout cas, il y a l'idée que ces lieux sont les observatoires, dans le fond, de la dégradation de l'humanité parce qu'elle a abusé de ses ressources. Et donc, du coup, ça prend au moins trois formes. Il y a la forme photographique, c'est-à-dire que il y a tout un ensemble de photographes qui ont développé une esthétique de la nature dans les ruines. Il y en a même un récemment, Romain Veillon, qui a montré à travers des dizaines de photos qui se suivent progressivement la nature envahissant les lieux et les recouvrant complètement. Donc en quelque sorte, la friche est une forme de métaphore, d'image de la destinée de l'humanité face à la crise écologique. Donc il y a une version photographique, il y a une version philosophique, il y a un livre qui a été publié en allemand justement sur le lieu abandonné comme finalement l'endroit de la dégradation possible de l'humanité dans la crise écologique. Et puis maintenant, il y a un élément qui est encore plus intéressant peut-être qu'à la fois l'approche philosophique et esthétique de ce rapport entre nature-culture dans la ruine, c'est que, comme vous savez, la loi récente qui a été prise par le gouvernement, ce qui s'appelle climat et résilience, implique qu'on ne pourra plus construire sur du végétal. Et donc, on doit arriver à l'horizon 2050 à zéro artificialisation nette. Donc, zéro artificialisation nette, ça veut dire qu'on ne peut plus construire sur du végétal. Ce qui veut dire que dans cette perspective-là, il n'y a pas 36 manières quand on veut continuer à construire. Soit on monte en hauteur, ce n'est pas toujours facile, soit on va récupérer des terrains à l'abandon. Et donc, la friche est devenue, dans le fond, une politique écologique par excellence, parce que c'est l'endroit où on n'a pas besoin d'artificialiser, puisque c'est déjà fait. Et donc, du coup, le gouvernement en France en particulier a fait un plan friche avec un observatoire des friches. Il a mis énormément d'argent et c'est un succès colossal. Donc, dans le fond, la friche devient une forme de recyclage, de récupération écologique. Et alors là, évidemment, ça donne lieu à tout un ensemble de réflexions. Donc, ce lien entre le lieu abandonné, la nature et l'écologie, c'est aujourd'hui une question centrale qui dépasse d'ailleurs les historiens pour être finalement un enjeu considérable dans la manière de construire et de bâtir l'humanité de demain, parce qu'en France, les friches, il y en a partout. Il y en a partout, il y en a des milliers, il y en a qui sont immenses. Et donc, du coup, cette idée qu'on aura là une ressource en quelque sorte écologique, c'est une pensée qui est très contemporaine. Et du coup, tous ces textes font écho.
Alors, je voudrais qu'on en vienne un peu plus spécifiquement à l'urbex, à l'exploration urbaine, l'exploration des marges, qui sont quand même des endroits de prédilection pour les historiens. Et en vous écoutant aujourd'hui tous les deux, comme au cours des séances de notre séminaire, j'ai souvent pensé que l'histoire que d'autres personnes pratiquaient aux marges de monde, monde académique, monde industriel, faisaient des historiens, un peu comme M. Jourdain, des urbexeurs ou des urbexeuses des archives. Parce que l'urbex est illégal. Et là où je veux en venir, c'est quelle est la position de l'historien quand on pénètre dans un lieu, quand on fait de l'urbex, comme vous, Nicolas, quand on récupère, comme moi, des archives qui ont été jetées dans les poubelles, puisque moi, et éclusé de grands conteneurs. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est pas légal? Et donc, finalement, en creux, ce dont on parle aujourd'hui, c'est la question de la pratique du métier d'historien quand on investit des lieux qui sont à la marge des mondes, du monde des archives, à la marge des bibliothèques. Christophe, Nicolas, qui veut répondre?
Moi, je suis moins un illégaliste que vous, tous les deux, mais je crois que, de toute façon, le principe de l'histoire, c'est ça, c'est de se mêler de choses qu'on veut nous cacher. Dès qu'il y a une révolution, on ouvre les placards et on découvre l'armoire de fer, et après, ça se passe mal pour un certain Louis XVI. Etc., etc. Non, je veux dire, toute révolution fait découvrir des archives qui étaient interdites, qui étaient cachées, et évidemment, c'est grâce à ça que l'historien rétablit une vérité, entre guillemets, puisque c'est jamais une vérité absolue, mais en tout cas, met en cause la vérité officielle, et permet de voir des ressorts cachés qui, jusqu'ici, étaient bien masqués par les pouvoirs en place. Donc, je pense que c'est la base même du travail de l'histoire.
Nicolas ?
Oui, et effectivement, et on peut élargir d'ailleurs dans cette perspective un peu démocratique, c'est que dans le fond, beaucoup de ces lieux abandonnés, il y a bien sûr Christophe rappelait tout à l'heure qu'il y a quand même des variétés de cas, on ne pourra pas tous les traiter, mais il y a quand même beaucoup de ces lieux qui font partie d'un patrimoine collectif,
d'un patrimoine global. Et donc, évidemment, c'est illégal d'y pénétrer, c'est inégal de prendre des photos des archives qui sont là, c'est inégal, évidemment, de les parcourir sans autorisation. Mais dans le fond, ce que je me dis souvent, c'est que c'est quand même une histoire patrimoniale collective. Alors, même si ensuite le lieu a été privatisé par des gens qui l'ont racheté, des promoteurs, même s'il est, sous des institutions publiques qui ne souhaitent pas le laisser au public, moi, je pense quand même qu'il y a une dimension patrimoniale dans le bon sens du mot. Effectivement, l'historien est là pour écarter effectivement toutes les formes de secret, les absences de transparence. Et donc, du coup, j'avoue que j'ai jamais eu de la moindre, comment dire, sentiment de culpabilité à pratiquer ça de manière illégale, parce que, pas par principe, hein, même si parfois l'illégalité ne me dérange pas, mais la question n'est pas tant là que l'idée qu'effectivement, c'est un patrimoine commun. Alors, j'y mets une réserve, c'est que dans mon travail d'historien, comme des autres urbexeurs, qui vont utiliser les lieux abandonnés comme des sources, il y a l'idée à un moment de les redonner en quelque sorte au public sous la forme de publication. Donc on ne va pas parcourir ces lieux juste pour mettre nos photographies dans des albums secrets, on va les partager soit sous forme de blog, soit sous forme de réseaux sociaux par le web, soit évidemment, ça c'est pour les historiens disons du métier, soit sous forme de publication. Et donc, je crois qu'il y a véritablement l'idée de desserrer les taux, effectivement, qui est donné sur un certain nombre de patrimoines. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas le mien. C'est qu'on a une collègue qui est à la fois historienne, politiste et anthropologue de la Chine contemporaine. Et donc, c'est une des premières à avoir, Judith Audin, à avoir utilisé la méthode de l'urbex vraiment en sciences sociales. Et une des raisons qu'elle met en avant, c'est l'idée que le pouvoir chinois ne lui donne pas les archives dont elle a besoin. Donc, en allant dans des lieux abandonnés, et paradoxalement, en Chine, c'est pas des lieux très surveillés, c'est pas des lieux qui font l'objet d'un investissement. Donc, elle est allée là-bas pour trouver des archives ouvrières, pour trouver des archives sur le fonctionnement d'une usine. Donc, l'urbex était vraiment une source pour elle qui était un moyen de desserrer l'étau de l'absence d'archives qu'elle n'avait pas. Donc, je pense qu'en sciences sociales, on peut assumer l'idée, effectivement, d'aller chercher le patrimoine là où il est pour en faire un usage dans le fond collectif, public, puisque elle, comme moi, on va rendre par nos travaux ce qu'on y a vu et quels sont les enjeux. Donc, en ce sens, le caractère illégal, finalement, pour l'historien, n'est pas un critère décisif ou fondamental. L'idée, c'est pourquoi en faire au final. Et tant qu'on en restitue, je pense, sous forme de travaux éprouvés, le résultat, c'est finalement secondaire. Et parfois, ça peut même avoir des vertus démocratiques.
J'ai bien compris dans la remarque que vous venez de formuler, éprouver la nécessité pour les historiens qui pratiquent l'urbex, de se différencier de certains courants d'urbexeurs qui préfèrent s'adonner à la photographie, qui recherchent quasiment une esthétique du lieu. Et on aura compris à écouter nos échanges que ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est aussi notre capacité à l'analyse critique des sources que nous avons sous les yeux et à la restitution et au partage avec qui a envie de lire nos travaux. Alors, on a compris ce qu'étaient les différences entre les urbexeurs et les historiennes et les historiens. Je voudrais, pour terminer, que vous évoquiez un peu précisément ce que sont pour vous, ce que serait le plus beau lieu abandonné que vous ayez fréquenté, côtoyé, que ce soit à travers des sources écrites et la littérature, ou que ce soit par le biais de l'exploration urbaine, Christophe.
Ouais, moi, j'ai pas du tout la même expérience que mon voisin, donc je ne connais un peu que cet endroit-là, le Palais d'Orsay, mais qui m'a intéressé parce qu'il y a plusieurs couches d'histoire l'une sur l'autre. Et quand on en creuse une, on en trouve une autre, et une autre, et une autre. Donc c'est à la fois un lieu qui a été chahuté par l'histoire, mais qui en même temps permet de retrouver à la fois la continuité et la discontinuité de l'État, puisque au départ c'est une institution d'État voulue par Napoléon, reprise par Louis-Philippe, détruite par la Commune, et ensuite reprise en charge par un organisme privé, puisqu'il s'agit d'une compagnie de chemin de fer qui va récupérer l'endroit. Et en dernier lieu, c'est de nouveau l'État qui reprend la main quand il retransforme la gare en musée. Donc on a un espèce de cycle éternel privé-public en France qui rappelle beaucoup d'autres épisodes de l'histoire de France.
Nicolas ?
Dans le fond, avec l'urbex, je pourrais faire un peu la même réponse que Christophe, parce que
Les lieux qui m'impressionnent le plus ne sont pas du tout ceux, en général, qui impressionnent les urbexeurs, disons, plus classiques ou moins historiens. Ce n'est pas la grandeur, ce n'est pas le danger, ce n'est pas la beauté, parce qu'il y a évidemment des lieux qui aussi dégagent une esthétique, même si, effectivement, comme historien, ce n'est pas forcément notre préoccupation première. Il y a parfois, quand les lieux sont tellement magnifiques, dans des lieux abandonnés, avec effectivement un jeu entre la nature, les lumières, tout ça existe et parfois très fort. Mais là où, effectivement, moi, j'ai une sensation très forte et des questionnements très forts, c'est quand il reste énormément de traces de ce qu'ont été ces lieux. J'ai donné un exemple d'un lieu qui m'a le plus marqué, qui est une immense usine de tapis en Allemagne de l'Est. Une immense usine de tapis, si c'était des tapis qui étaient... Ça avait été une usine qui avait été fondée bien avant 14. C'était une vieille usine allemande en Saxe. Donc, il y avait déjà toute une histoire. Elle exportait partout. Elle fabriquait des tapis, d'ailleurs, qu'on a baptisé au Proche-Orient les tapis de Jérusalem. C'était fabriqué en Saxe, mais tout le monde achetait là-bas des tapis de Saxe. Donc, elle avait eu un succès commercial et industriel considérable. Elle avait été donc reprise par l'Allemagne de l'Est, qui avait continué à en faire un fleuron de l'exportation. Et il se trouve que j'avais appris qu'elle était en destruction, donc je me suis précipité pour voir où on était. Par chance, la destruction était peu avancée, donc je suis rentré dans une usine qui avait encore toute son historicité. Et j'avoue qu'il y avait des archives, il y avait toutes les archives, notamment de la section de publicité, comme on disait à l'époque. Il y avait aussi, comme c'était le cas dans les usines de RDA, il y avait aussi toute la bibliothèque qui était faite pour les ouvriers. Donc vous étiez là, dans le fond, j'étais en train de rentrer dans des couches d'histoire, puisque le bâtiment était plutôt 19e. Donc un bâti plutôt 19e, qui datait d'avant 14, ensuite toute une historicité. Donc on a vraiment l'impression d'une forme de balade dans l'histoire, mais pas juste d'une balade un peu, disons, artificielle ou d'un décor. Hein. On rentre dans des archives. Il y avait les salles de cours, puisque souvent aussi en RDA, il y avait de la formation continue qui était faite dans les mêmes lieux. Donc là, on a en fait, c'est une exploration. Par chance, les ouvriers ont fini par partir. Je suis resté toute la soirée, donc je me suis promené des heures. Et donc, c'est surtout, moi, c'est la manière de pétrir l'histoire qu'on peut avoir dans ces lieux-là, avec des choses effectivement exceptionnelles, parce qu'on peut bien sûr retrouver une bibliothèque de RDA, c'est possible peut-être de retrouver les achats dans les archives. Mais là, vous avez là comment c'était disposé, quels livres étaient empruntés, quelle attention leur prêtait. La même chose pour la salle de cours, la même chose pour les archives, la même chose pour un ensemble de machines. Donc là, il y a quand même une impression pour l'historien qui est extrêmement forte. Et c'est peut-être là aussi ma spécificité par rapport à l'urbex en général, c'est que c'est ce genre de choses. Hein. C'est l'épaisseur historique du lieu qui est pour moi le plus important.
Eh bien, je pense qu'on aura convaincu les auditeurs de ce podcast de la nécessité de continuer à faire de l'histoire et que l'histoire peut se pratiquer bien loin des sentiers connus. Il est temps d'écouter notre carte blanche animée, présentée par Costanza Lugnani sur la disparue du Vatican.
En 2022, la plateforme Netflix a diffusé la docu-série Vatican Girl, en français « La disparue du Vatican », réalisée par le Britannique Mark Lewis. Il s'agit en fait d'un documentaire en 4 épisodes d'environ 1 heure chacun et consacré à la disparition d'Emanuela Orlandi, advenue à Rome en 1983. Petit récapitulatif des faits avant d'en venir au traitement qu'en propose le documentaire. Emanuela Orlandi est une citoyenne vaticane. Son père travaille au sein de la curie romaine, c'est-à-dire au cœur de l'appareil de gouvernement de l'État Vatican. Et sa famille, habite à l'intérieur de la cité du Vatican et fait partie de cette petite proportion de laïcs qui vivent dans l'entourage immédiat du pouvoir pontifical. Le 22 juin 1983, alors âgée de 15 ans, Emanuela Orlandi disparaît en plein centre de Rome, donc attention, c'est important, sur le territoire italien, dans des circonstances qui n'ont jamais été élucidées. À ce jour, elle n'a pas été retrouvée, ni vivante ni morte, et les conditions de sa disparition restent en large partie brumeuses. Mais des pistes existent bel et bien, avec des degrés de fiabilité et de vraisemblance très très variables. Ces pistes ont émergé de manière échelonnée au cours des 40 dernières années, à la faveur de témoignages, de pièces à conviction et d'événements qui ponctuellement sont venus épaissir le dossier. Et en 2022, enfin, l'État du Vatican a annoncé son intention d'ouvrir sa première enquête officielle quant à la disparition de sa ressortissante. En Italie, pendant ce temps, la Chambre des députés vient d'approuver le projet d'une constitution de commission d'enquête parlementaire dédiée à l'affaire. Et à l'heure où nous parlons, on attend que les membres de cette commission soient officiellement désignés par chacun des partis politiques du Parlement italien. Disparition mystérieuse d'une jeune adolescence, chape de plomb sur des secrets impliquant le Vatican, actualité brûlante du dossier, autant d'éléments réunis pour une série bien sensationnaliste et totalement irrespectueuse envers la dignité de la personne disparue. C'est ce que je me suis dit avant de regarder, j'avais tort. Au contraire, Vatican Girl parvient à limiter la casse en termes de spectacularisation pour se concentrer vraiment sur une restitution des faits, finalement aussi sobre et minutieuse que le permet la logique d'une plateforme de divertissement. La série s'appuie sur des entretiens menés avec des spécialistes, notamment des spécialistes du journalisme d'investigation, notamment Andrea Purgatori qui malheureusement est décédé depuis, mais aussi avec des spécialistes dans le domaine de la justice, puisqu'on a affaire à des enquêteurs, à des magistrats, à des experts judiciaires, et aussi avec des membres de l'entourage d'Emanuela Orlandi. Les pièces du dossier sont présentées petit à petit, à mesure qu'on avance dans les épisodes du documentaire, avec toujours une analyse critique et surtout un effort constant de contextualisation qui fait plaisir à l'historien, mais surtout en fait aux spectateurs comme moi qui, évidemment, n'avait pas forcément toutes les cartes en main pour ce qui était de définir le contexte spécifique des années 80 et 90 en Italie. Et les différentes hypothèses qui permettraient d'expliquer la disparition de la jeune femme, finalement, sont présentées de façon hiérarchisée, ordonnée et toujours raccordes avec des explications claires. Il est évident que le documentaire, vous allez voir si vous le regardez, privilégie une hypothèse en particulier et qu'il prend parti. Il prend parti pour la piste selon laquelle Emanuela Orlandi aurait été l'outil d'un chantage effectué contre le Vatican par la mafia. En effet, la principale organisation financière du Vatican, l'Institut des œuvres de religion, le IOR, aurait servi de plateforme de blanchiment d'argent issue de la criminalité organisée. De l'argent que le Vatican aurait manqué de restituer, de l'argent donc que l'organisation romaine appelée Banda della Magliana aurait réclamé en échange de la restitution d'Emmanuel. Ce qui est positif, c'est que le documentaire quand même livre aussi des éléments qui permettent d'envisager d'autres hypothèses d'interprétation. Très proches de celle-ci quand même, mais assez différentes. En somme, on ne sombre jamais dans le relativisme absolu et on met clairement de côté des possibilités complètement fantaisistes comme l'intervention du KGB, l'intervention du groupe nationaliste turc des loups gris, bon, toutes ces choses invraisemblables, on les laisse de côté. Mais quand même, on laisse au spectateur la possibilité de réfléchir plus avant aux choses, sans non plus lui donner une explication prête à penser, en quelque sorte. Donc pour résumer, on montre que c'est compliqué, mais on montre aussi que certains faits sont quand même têtus et très parlants, et qu'ils amènent l'enquête à être interprétée d'une certaine manière plutôt que d'une autre. La qualité du documentaire, à mon avis, ressort encore plus nettement quand on le compare aux grands titres de certains journaux sortis dans les derniers mois. J'ai lu beaucoup d'articles, même dans des quotidiens normalement bons, à grand tirage à l'échelle nationale, qui parlaient de l'affaire Orlandi comme d'une énigme, comme d'un fait divers, comme d'un cas mystérieux bourré de rebondissements, en français dans le texte à chaque fois. Donc par moments, on ne savait plus si on était dans une recension de mauvais policiers du samedi soir ou dans un article consacré à une personne disparue, on le rappelle mineure au moment des faits, à qui, en théorie, on doit le respect. Et voilà, Vatican Girl ne fait pas ça, précisément. On ne mise jamais sur le suspense et sur la mise en scénario morbide d'un événement réel. Autre élément essentiel, plusieurs journaux, essentiellement des journaux extra-italiens pour le coup, ont récemment évoqué la piste mafieuse en l'identifiant comme une déclinaison de la théorie du complot et en la mettant explicitement sur le même plan que les délires des 2-3 mythomanes qui ont revendiqué l'enlèvement à l'époque. Voilà, sur ce point, le documentaire est beaucoup plus juste. Il montre que la piste mafieuse découle d'une véritable administration de la preuve de la part des enquêteurs et des magistrats italiens, poursuivie dès les années 1980. Et ce que le documentaire parvient à montrer à travers ça, c'est que la mafia, ce n'est pas une jolie couleur locale dans un film qui se déroulerait en Italie. La mafia, ce n'est pas une illusion. Si des professionnels du milieu de la justice l'ont identifié comme élément d'intérêt au cours de l'enquête, c'est qu'il y avait des raisons tangibles de le faire. La mafia, ce n'est pas non plus une abstraction. Elle est animée par des gens, des bandes, des moyens, des réseaux repérables dans l'espace. Et enfin, la mafia, ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas parce qu'elle est montrée dans les films qu'elle cesse d'exister dans la vraie vie. Et cet élément prouve, à mon avis, que le documentaire échappe non seulement au sensationnalisme, mais aussi à l'écueil de l'exotisation, qui transparaît dans d'autres propos consacrés à l'affaire Orlandi et à l'Italie d'ailleurs en règle générale. En somme, pour plein de raisons différentes, ça vaut à mon avis vraiment le coup de regarder, ne serait-ce que pour avoir accès d'une manière assez qualitative à une page de l'histoire de l'Italie contemporaine des années 1980 à aujourd'hui.
Merci à toutes, merci à tous d'avoir écouté Obsit, le podcast de l'IHMC. Cet épisode était présenté aujourd'hui par Muriel Leroux, produit par Francesco Zamboni et Jérôme Jacobé, réalisé par Quentin Sensier. Nous espérons vous retrouver le mois prochain pour un nouvel épisode.